RFI, grand reportage.
L'Irak est aujourd'hui secoué par le plus important mouvement de contestation depuis 2003. Deux mois et demi déjà que les manifestants défilent à Bagdad et dans les provinces du Sud pour demander la démission du gouvernement et du Parlement. Deux mois et demi qu'ils réclament une refonte totale du système politique actuel. Mais qui sont ces manifestants? D'où viennent-ils? Comment vivent-ils? Et pourquoi sont-ils prêts aujourd'hui à mourir pour leur pays, comme ils disent? Notre correspondante à Bagdad a suivi trois d'entre eux, trois Irakiens au parcours bien opposé, mais que cette contestation a réuni. Un chiite, un sunnite et une jeune femme qui se déclare athée. À eux trois, ils racontent l'Irak d'aujourd'hui étant décrire celui de demain. La rue irakienne, unie malgré tout dans la révolte, c'est un grand reportage de Lucille Wasserman.
Place Tahrir au centre-ville de Bagdad. Comme chaque jour depuis mi-octobre, les manifestants défilent ici et font battre sans arrêt le cœur de la contestation en Irak. Cette place gigantesque, surplombée du monument de la liberté, est aujourd'hui couverte de dizaines de tentes installées par les protestataires. Sous chacune d'elles, on peut se reposer, manger, avoir accès à des premiers soins et même regarder des films sur grand écran ou assister à des pièces de théâtre. Une ville dans la ville que beaucoup de manifestants ne quittent plus depuis mi-octobre. Sous l'une de ces tonnelles, Akil discute avec certains passants qui s'arrêtent à la vue de la photo de Safa al-Sarraï accrochée sur la devanture. Ce jeune Irakien, originaire du bastion chiite de Sadr City, est mort le 27 octobre après qu'une cartouche de gaz lacrymogène l'a heurté en pleine tête. L'image de ce jeune homme de 26 ans, le regard perçant, un foulard turquoise autour du cou, est devenu le visage de la contestation. À qui il lui ressemble, il a 43 ans, Safa était son petit frère.
Les manifestants se sont donné rendez-vous le 25 octobre. Il y est allé et il voulait que tout le monde soit là. Il a voulu rester sur place, même la nuit. Le 26, il a été blessé à la main et le 27, une grenade l'a touché et il est mort.
Akil nous emmène sur les lieux où ce drame s'est produit. Au début du pont Al-Jumouriya, le pont de la République en arabe. Là, où au début de la contestation mi-octobre, les manifestants faisaient face sans arrêt aux forces de sécurité et où des grenades assourdissantes résonnaient sans cesse dans le ciel de la capitale irakienne.
Voilà le dernier endroit où il se trouvait avant de mourir. Il était là avec ses amis et il est allé sur le pont, là où il y avait la ligne de front. Il est mort au début du pont. Le conducteur du tuk-tuk qui l'a conduit à l'hôpital est venu me voir il y a 15 jours. Il m'a dit « Salut, je voulais te raconter quelque chose quand j'ai emmené ton frère ». Je lui ai dit d'accord, il m'a dit « C'était bizarre parce qu'il était entre la vie et la mort, et tout ce qu'il faisait, c'était réciter un poème par cœur ».
Safa était poète, peintre et musicien. Il fut l'un des premiers manifestants tués après la reprise de la contestation le 25 octobre. Quelques jours après la mort de son frère, Akil a fait le choix de monter une large tente sur la place Tahrir. Trois jours, très exactement après l'avoir enterré.
Le 28 était le jour de ses funérailles. Le 29, le jour du deuil. Le 30, je montais cette tente en guise de funérailles symboliques ici. Cette tente est peu à peu devenue un refuge pour les manifestants. Je me demande encore pourquoi Safa est devenu un symbole. Beaucoup de gens me disent parce que personne n'aimait l'Irak plus que lui. Aussi parce que c'était l'un des premiers à manifester, et puis qu'il était jeune, impliqué, et qu'il venait même seul ici, malgré le danger, malgré le fait que le gouvernement pouvait le tuer. Voilà pourquoi les gens en ont fait un symbole, je crois.
Depuis la mort de son frère, Akil vient tous les jours sur la place Tahrir pour mener le combat de Safa, dit-il, et le sien.
Moi, personnellement, je ne sais pas si je représente la plupart des gens ici, mais moi, je demande quatre choses. Premièrement, la démission du gouvernement. Deuxièmement, une nouvelle loi électorale. Troisièmement, la formation d'un nouveau comité électoral. Et enfin, la tenue d'élections anticipées. On a déjà obtenu la première demande avec la démission du Premier ministre. J'attends les trois autres.
Pour cela, Akil ne rejette pas toutes les figures politiques traditionnelles. Il pense que l'influent leader chiite Muqtada Sadr est aujourd'hui un allié des protestataires. Une différence majeure avec d'autres manifestants qui demandent le départ de toute la classe politique actuelle. Pour le sociologue et spécialiste de l'Irak Adel Bakawan, les protestataires peuvent être à ce titre divisés en trois catégories.
Tout d'abord, ce que j'appelle la génération bulldozer. Cette génération est, au niveau de tranche d'âge, constituée de 13 à 24 ans. Cette génération n'a pas de leader, n'a pas de programme politique, n'a pas d'idéologie, n'a pas de vision. La seule chose dont ils maîtrisent, c'est la destruction. Le deuxième acteur majeur, il s'agit de ce que j'appelle des intellectuels sans parti ou des Lénine sans parti. Ils sont des médecins, des chercheurs, des professeurs d'université, des étudiants en master ou en doctorat qui essayent de théoriser un mouvement social. Par contre, ils n'ont pas une base sociale. La troisième catégorie d'acteurs, il s'agit de l'opposition officielle représentée par le mouvement de Muqtada Sadr et le mouvement d'Al-Hakim.
Reste que ces manifestants ont des aspirations communes, dont la démission du gouvernement, la fin de la corruption et des ingérences étrangères. Akil, comme la plupart des protestataires ici, rejette ainsi avec force l'influence de l'Iran dans le pays.
Personne ne veut de l'influence de l'Iran, comme de n'importe quel autre pays, que ce soit les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Mais il faut le dire, la plus grande influence reste celle de l'Iran. Moi, je suis lié à l'Iran par ma confession, et je ne suis pas honteux de cela. Mais l'Iran n'a pas pour autant le droit de m'imposer une protection ou je ne sais quoi, parce que je suis chiite. Ce n'est pas comme s'il y avait une guerre religieuse ici, et que j'avais besoin d'eux pour intervenir d'une façon ou d'une autre.
D'ailleurs, Akil pense que l'État devrait désormais se séparer de toute religion. Comme beaucoup d'autres manifestants aujourd'hui, il soutient l'idée d'un État laïque.
Le sectarisme est terminé en Irak. Pour moi, même en tant que religieux, je veux un État laïque, un gouvernement civil. Dans la Constitution, je voudrais qu'on enlève que l'islam est la religion de l'Irak. Je veux qu'on construise un État en tant qu'organisation, en tant qu'individu.
Des individus qui ne souhaitent plus aujourd'hui être catégorisés en fonction de leur religion ou de leur communauté. Pour Adel Bakawan, cette volonté est de plus en plus importante pour la génération actuelle, unie par des rêves communs.
Le rêve de la dignité, le rêve d'un monde meilleur, le rêve d'avoir accès à l'emploi, à la culture, aux services publics, constituent des dénominateurs communs. Chez cette génération, quelle qu'elle soit, chiite, comme sunnite, arabe, comme kurde, musulmane, comme chrétienne. En revanche, le mode d'action reste pluriel et divers.
De l'autre côté de la place Tahrir, Mohamed rejoint un groupe d'amis pour manifester. Lui est originaire de Ramadi, dans la région d'Al-Anbar, à l'ouest de l'Irak, l'une des principales provinces sunnites du pays. Il est d'une carrure massive, à l'allure sereine et au regard doux, et remet régulièrement en place sa casquette sur sa tête. Si la région dont il est originaire, comme toutes les autres à majorité sunnite, n'a pas été touchée par le mouvement social, cela ne signifie pas que la communauté sunnite ne se mobilise pas, selon lui.
À Bagdad et dans le sud, les sunnites et les chiites manifestent ensemble aujourd'hui. La pauvreté et la faim nous ont divisés dans le passé. Les gens voulaient du travail et de l'argent, donc ils ralliaient n'importe quel groupe pour avoir de l'argent et simplement appartenir à un groupe. Mais l'Irak est un beau pays. J'adore ce pays et je pourrais mourir pour lui. On veut le retrouver aujourd'hui. Inch'Allah, on le retrouvera bientôt.
Mohamed faisait lui aussi partie des premiers manifestants sur la place Tahrir. Dès les premiers jours, Il a été touché par une grenade assourdissante qui a explosé à quelques mètres de lui. Encore aujourd'hui, sa main droite est enroulée dans un large bandage tenu par une attelle. Il nous emmène là où cela s'est produit, à l'entrée du pont Al-Jumouriya, à quelques mètres seulement de l'endroit où Safa, le jeune frère d'Akil, a perdu la vie.
Voilà, c'est ici que j'ai été touché. Des grenades assourdissantes et des grenades lacrymo étaient tirées sur nous. C'était au début des manifestations.
L'endroit est plutôt calme aujourd'hui. Mais Mohamed préfère rester en retrait. Les médecins sont pessimistes quant à son cas et évoquent même la possibilité d'une amputation dans les prochaines semaines. Tout cela à ses propres frais. L'idée même de recevoir des indemnités le fait sourire.
Non, et je ne vais même pas demander. Il pourrait m'arrêter.
Avec le froid qui arrive à Bagdad, Mohamed évite de rester trop longtemps dehors pour préserver sa blessure. Il nous invite chez lui, dans le quartier sunnite de Al-Saïdia, au sud-ouest de Bagdad, connu pour avoir été l'un des bastions d'Al-Qaïda dans les années de guerre civile. Les stigmates de ces années de violence se lisent encore sur les bâtiments du quartier. Mohamed vit ici avec sa famille depuis plusieurs années maintenant, même s'il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne retourne dans la région d'Al-Anbar. Entouré de deux gigantesques aquariums dans une pièce réservée aux visiteurs, Mohamed explique pourquoi ces régions sunnites ne se sont pas soulevées depuis le début du mouvement.
S'ils rejoignent la contestation, on va les accuser d'être de Daesh et d'être des terroristes ou de les défendre. Et puis vous savez, les gens là-bas ont beaucoup souffert de Daesh, ils ont peur. Ce n'est pas comme s'ils ne voulaient pas demander leurs droits eux aussi, mais même les chiites le disent. Si les sunnites de ces régions se soulèvent, ils savent que le gouvernement n'hésitera pas à les tuer, la répression sera plus forte qu'avec les chiites.
Pour l'expert Adel Bakawan, ce peu de mobilisation dans les provinces sunnites s'explique également par un autre ordre de priorité.
Tout d'abord, cette communauté est passée par les deux processus qui ont laissé des traces existentielles sur cette communauté opprimée en Irak au moins depuis 2003. Le processus de la débasification et de la désunification. Ensuite, de 2014 à 2017, le territoire sunnite a été détruit par une guerre entre la coalition internationale et l'organisation de l'État islamique. Aujourd'hui, la priorité de toutes les priorités de cette communauté n'est absolument pas l'engagement dans un mouvement de contestation, mais la reconstruction de leur territoire.
Retour sur la place Tahrir, où un petit groupe de manifestants pleure devant une photo d'un de leurs amis. Un photographe enlevé par des hommes en civil alors qu'il rentrait chez lui.
Pourquoi ces gens l'ont enlevé ? Parce que c'est un photographe ? Je suis tellement inquiète. Où est-il aujourd'hui ?
Sally est l'une de ses amies. Elle pointe du doigt les bougies allumées devant sa photo.
Je déteste ces bougies. Il n'est pas mort. Il va revenir et il ira bien.
Depuis le début de la contestation, des dizaines de manifestants ont été portés disparus à Bagdad et dans le sud du pays. La plupart ont été enlevés de nuit alors qu'ils rentraient chez eux. Pour beaucoup de ces jeunes Irakiens présents aujourd'hui, le gouvernement ou les milices sont derrière ces disparitions. Ces groupes paramilitaires proches de Téhéran ont une main mise sur l'ensemble des sphères du pouvoir en Irak depuis plusieurs années. Les manifestants les accusent de vouloir saboter le mouvement pour conserver leur influence. Rien ne permet toutefois aujourd'hui de prouver ces allégations. Le gouvernement affirme lui enquêter pour identifier les responsables de ces enlèvements, sans résultat pour le moment. Face à ces enlèvements de masse, beaucoup de ces jeunes Irakiens préfèrent cacher à leurs proches leur venue sur la place Tahrir. Sally a mis ainsi plusieurs semaines avant d'avouer à ses parents qu'elle se rendait ici. Cette jeune femme de 22 ans est d'allure rebelle. Les cheveux teintés en rouge, elle se dit athée et joue de la guitare électrique, avec pour rêve de composer un jour un album de métal. Elle nous emmène chez elle pour rencontrer sa famille. Sur le chemin, elle explique pourquoi elle n'a pas peur de se rendre chaque jour sur la place Tahrir.
Je pense à ça tout le temps et je me dis que je serai peut-être la prochaine. Mais en même temps, j'ai cette voix au fond de moi qui me dit « Non, on doit se battre pour ces gens, pour que ces gens soient libres. Si on veut m'enlever, je m'en fiche qu'ils me prennent. Ce n'est pas un problème pour moi, mais il y a ma mère et mon père. Ils sont âgés maintenant, ils n'arrivent pas à entendre ce qui se passe. »
Arrivée au domicile familial, Sally s'installe sur un canapé, entourée de sa mère Fatima et de son jeune frère de 19 ans, Aysam. Fatima a un foulard bleu pâle sur la tête. Elle explique l'inquiétude qui la traverse en ces temps de crise.
Je reste ici et je fais mon devoir de mère à la maison. Même si je suis inquiète, vous savez, il y a un fossé entre le gouvernement et les gens. Les gens n'ont même pas des services de base ici, ni d'emploi. Donc c'est normal que les jeunes se mobilisent. Et leurs familles ne leur diront pas de ne pas y aller.
Sally et son frère la regardent et sourient. Chacun d'entre eux se battront jusqu'à obtenir gain de cause, disent-ils. Et pour Sally, comme pour beaucoup de femmes sur la place Tahrir, les enjeux sont doubles, dit-elle.
Je voudrais qu'on respecte les femmes. Vous savez, en Irak, les lois ne sont pas justes pour les femmes. Je voudrais que ça évolue aussi. Il y a tellement de choses à changer, parce que quand je serai diplômée, je veux vivre ma vie et jouer de la guitare dans les rues librement.
Un combat féministe de plus en plus audible depuis le début de ce mouvement. Sur la place Tahrir, les femmes sont au moins aussi nombreuses que les hommes. Elle s'engage même dans les premières lignes de la contestation face aux forces de l'ordre. Un fait rare dans ce pays très conservateur et un changement de taille pour la société irakienne, explique Adel Bakawan.
La participation des femmes au mouvement de contestation en Irak est un fait et est un fait majeur. Cette participation met en scène un acteur qui souhaite se prendre en main et participer à la recréation, à la reconstruction d'un système politique dans lequel jusqu'à hier, ils étaient des acteurs mineurs, des acteurs marginalisés, des acteurs frustrés. Désormais, elles souhaitent écrire ou réécrire l'histoire de leur pays.
Les demandes de ces manifestants et de ces manifestantes sont ainsi nombreuses, au moins tout autant que les obstacles auxquels ils doivent faire face aujourd'hui, sans que cela n'atteigne toutefois leur morale et leur détermination, explique Sally.
They trying to afraid us and stay home and just.
On essaye de nous menacer, de nous faire rester chez nous, de nous faire taire. Mais nous, les jeunes, on sait que ce sont des techniques psychologiques. C'est comme une guerre. Mais nous, les jeunes, on reste. Et tous les gens sur la place Tahrir le disent. On ne partira pas, on vous le promet.
Une conviction partagée par Akil, par Mohamed et par la plupart des manifestants sur la place Tahrir. D'une seule et même voix, ils préfèrent souligner aujourd'hui leurs points communs que leurs différences sociales, religieuses, générationnelles ou même entre sexes. Un combat qu'ils mènent unis dans le but de renverser ce pouvoir qu'ils jugent aujourd'hui oppressant pour construire in fine un pays à leur image.
La rue irakienne, unie malgré tout dans la révolte, un grand reportage de Lucille Wasserman, réalisation Pierre Chaffangeon.
Appelez-nous